je voudrais partager avec vous cette pensée que le Seigneur m'a donnée lorsque nous étions dans la détresse ces dernières semaines. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de venir m'abriter sous ton aile car le combat est trop fort et trop grand. Et le Seigneur m'a donné cette pensée, voici, j'ai pour toi deux ailes principales sur lesquelles tu peux te réfugier. Et la première aile, c'était l'aile de sa bonté. Ne doute jamais que Dieu est bon pour toi. Viens te réfugier sous mon aile de la bonté. Mes bontés se renouvellent pour toi chaque matin. Alors viens te réfugier sous l'aile de ma bonté. Et la deuxième aile, c'était l'aile de sa fidélité. Jamais je ne te délaisserai, jamais je ne t'abandonnerai, me dit le Seigneur. Et te dit le Seigneur, viens t'abriter sous l'aile de la fidélité de ton Dieu, qui ne manquera jamais, tu ne manqueras jamais de rien. Jamais. Si bonté se renouvelle chaque matin, et sa fidélité est infaillible, éternelle, illimitée. Elle ne dépend pas de toi. C'est lui qui est fidèle à ce point-là et qui ne te délaissera pas, jamais. Viens te réfugier sous l'aile de sa bonté. Et dès que je me suis réfugiée sous ses deux ailes, de sa bonté et de sa fidélité, le calme est revenu dans mon cœur. Faites-moi seulement confiance. Laissez-moi vous conduire, vous prendre par la main. Et je vous conduirai au port désiré, celui de ma gloire. Si vous vous confiez entièrement en moi, si vous ne lâchez pas ma main en route, vous êtes sûr d'arriver. Celui qui a commencé en vous cette œuvre l'accomplira. Et c'est sûr. C'est absolument sûr, c'est infiniment sûr. Le Seigneur nous dit, mon enfant, réfléchis un peu à ce que j'ai fait pour toi. Recueille-toi dans le silence, dans le calme, et réfléchis à ce que j'ai fait pour toi.
On lise quelques versets dans l'épître de Paul aux Romains et voir là des vérités importantes pour chaque chrétien. On va lire seulement les 5 premiers versets. On peut peut-être lire juste un peu le contexte, un peu avant, les versets 23, 24 et 25 du 4. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. Donc il est question d'Abraham. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification, étant donc justifié maintenant par la foi, soulignez bien l'expression par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, il ne se glorifie pas seulement, il ne faut pas seulement se glorifier dans la gloire qui nous attend, mais bien plus nous nous glorifions même des afflictions, sachant, ou des tribulations, certaines versions ont des tribulations, sachant que l'affliction ou les tribulations produisent la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Je lisais dans un commentaire que le mot Saint-Esprit, c'est la première fois qu'il apparaît dans l'Épître aux Romains. Après, on en parle beaucoup, mais ça apparaît pour la première fois ici, comme pour dire que le Saint-Esprit est là, il veut nous révéler des choses importantes, des vérités importantes. Et ici, l'apôtre Paul en vient, après avoir expliqué dans les premiers chapitres la justification par la foi, et maintenant il en arrive à dire que cette justification, elle est glorieuse, elle est merveilleuse, mais il veut nous dire que il faut que notre foi grandisse toujours plus, qu'on n'en reste pas à cette foi simplement concernant le salut ou la justification, mais que cette foi doit porter des fruits. C'est dans cette mesure-là que nous saurons si notre foi est réelle et vivante. Si notre foi ne porte pas de fruits, alors la foi est morte. Et ici, nous allons voir quels sont les fruits d'une foi réelle et vivante. C'est important de le savoir. Et j'en ai noté plusieurs ici, je vous les donnerai bien sûr. J'ai noté 8 fruits. Vous allez voir que ces choses sont extrêmement importantes pour chacun d'entre nous. Les fruits d'une foi réelle et vivante. Le premier fruit, c'est une foi ferme dans l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Ça, c'est le départ, c'est la base. Alors, on peut relire les versets 1 et 2. Une foi, vous voyez, ferme dans l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Quand il est dit, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce et dans laquelle nous demeurons fermes. Si nous voulons que notre foi porte des fruits, il faut que ce premier point soit vraiment non seulement acquis, mais qu'on doit absolument être ferme sur cette vérité-là, que l'œuvre parfaite de Jésus-Christ nous a ouvert les portes du ciel, et pas seulement les portes du ciel, mais les portes même du sanctuaire divin. Et pas seulement même les portes du sanctuaire divin, mais les portes même, si on peut s'exprimer, du cœur de Dieu. Une foi ferme dans l'œuvre, parfaite. Et pourquoi je dis cela? Parce que quand il est dit, nous avons eu accès à cette grâce par la foi. Je lisais un commentaire, et le mot accès est important ici, à savoir. Le mot accès, on a accès par la foi dans la présence de Dieu. Que signifie ce mot accès? Et vous allez voir, il a deux sens dans
dans le grec deux sens. Non qui s'oppose, mais qui se complète. Et quand l'apôtre parlait que nous avons accès, il avait cette image en tête. Et le premier sens est, ce mot servait à introduire quelqu'un auprès d'un roi ou d'un dieu, puisque à ce moment-là, il y avait beaucoup d'idoles et de dieux. C'était le mot qui était introduit, qui nous introduisait auprès du roi lui-même. C'est comme si Paul voulait dire, maintenant, cette grâce qui nous a été faite à cause du sacrifice parfait de Jésus, une grâce nous a été faite d'avoir accès, d'être introduit jusque dans la présence même de Dieu. Jusqu'à présent, vous le savez, on le sait, le voile, il y avait un voile entre les dieux et les hommes. Et les hommes ne pouvaient pas pénétrer, entrer dans le lieu très saint. Et là, l'apôtre Paul veut nous donner cette extraordinaire révélation que maintenant, par Jésus-Christ et par la foi, et non pas par les œuvres, parce que les hommes jusqu'à présent essayaient d'y entrer par les œuvres pour soi-disant plaire à Dieu et ensuite entrer dans la présence de Dieu. Mais là n'était pas le chemin. Le seul chemin était le sacrifice parfait de Jésus-Christ, qui par sa mort, seul, lui l'innocent est mort pour nous coupables. Lui le pur est mort pour nous impurs. Et il nous a ainsi introduits dans la présence même de Dieu, du roi, dans sa présence même. Et il nous faut être fermes dans cette réalité-là. Parce qu'aujourd'hui, avec tous les commentaires que je lis à gauche, à droite, et tout ce qui se passe dans le christianisme actuel, tout ce qui se dit chrétien, eh bien ces vérités-là sont complètement maintenant ignorées et même rejetées. Comme je le disais la dernière fois, des pasteurs même commencent à dire que finalement le sacrifice de Jésus ne suffit pas. Et que Dieu a été trop dur à l'égard de son fils. Comment le fils peut-il mourir à la place des autres? Mais c'est injuste. On lisait cela. Regardez où on va. Et ce sont des pasteurs qui disent cela.
Que Dieu est injuste d'avoir condamné son fils.
À notre place.
À notre place. C'est que Dieu est injuste.
Regardez où on va.
Alors que c'est la base.
Alors c'est la base. Donc c'est pour vous
dire ça.
C'est pour dire que où on en est. Et dans les années qui viennent, si le Seigneur ne revient pas,
oui, c'est la catastrophe.
Ces choses sont là. Oui. Et même des jeunes théologiens en Allemagne sont friands de ces prédicateurs américains qui annoncent de telles choses. Oui. Ils sont friands de ces choses. Comme c'est nouveau, ils se disent, mais c'est... Oui, parce que pour une nouvelle époque, il faut un nouveau message.
Voilà.
Et presque un nouveau Christ.
Il faut moderniser.
Et il faut un nouveau Christ. Oui, mais attention, on en est là.
Bien sûr.
Parce que, c'est un autre évangile.
Bien sûr, c'est un blasphème.
Donc, voyez-vous, l'apôtre ici, inspiré par le Saint-Esprit, dit qu'il faut rester ferme. Et nous aussi, si nous ne faisons pas attention, nous pouvons écouter ces sirènes diaboliques.
Ah oui, c'est diabolique, ça.
Et dire, ah, finalement, est-ce que Dieu n'était pas trop dur? Et tout ça, comment est-ce que lui, l'innocent, pouvait mourir? Rendez compte, on remet en question l'évangile même de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Paul a dit que celui qui prêche,
c'est grave,
qu'il soit
anathème.
Il n'était pas, il n'allait pas par quatre chemins.
Ah oui.
Parce qu'il en va même de, il en va même de notre salut éternel.
Ah oui.
Donc, et non seulement Jésus a porté nos péchés, mais il nous a introduits dans la présence même de Dieu, où il n'y a plus de séparation entre nous et Dieu. Comme on l'a dit, on t'a entendu, il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc il y a le sens d'être introduit dans la présence même de Dieu. Quelle grâce! Quelle grâce! Et toutes les religions, là on parle du christianisme apostat, j'allais dire, mais les religions, c'est ça, d'une manière générale. Ils cherchent à s'approcher de Dieu. Mais comment ils le font? Par leurs œuvres et par des sacrifices, par tout cela. Mais nous savons qu'ils ne touchent pas le cœur de Dieu.
Voilà.
parce qu'ils ne s'approchent pas comme Dieu le veut. Ils s'approchent selon leurs propres idées à eux. Et là, c'est la deuxième pensée. La deuxième pensée, celle-ci. La deuxième pensée qu'il y a dans le mot « accès », c'est dans le grec plus moderne qu'il y a cette pensée. Il est question d'avoir accès à un port. Il est question d'un port. C'est comme si Paul disait maintenant, la loi, les œuvres, nous ont tous conduits dans une mer déchaînée, où la tempête était là à nous frapper les uns les autres. Ça, c'est le salut par les œuvres. C'est comme une tempête qui nous rendait continuellement, nous ballottait continuellement à gauche et à droite et ne pouvait nous apporter la paix.
Et nous empêcher d'arriver au port.
Et nous empêcher, voilà.
Hein, quand on est ballotté dans la mer,
oui.
On ne peut pas arriver au port.
Et nous empêcher d'atteindre le but et d'arriver à ce port où il y a un calme parfait.
Voilà.
Donc il y a là, c'est comme si Paul disait maintenant, et bien voilà, la religion c'est ça, le salut par les œuvres, c'est ça. C'est l'homme qui est dans une tempête. Et il ne sera jamais dans la paix.
Non.
Il est même en danger de mort. Et s'il ne va pas au port, il mourra. De toute manière, il mourra. Parce que dans l'océan de ce monde, il n'y a que le port qui peut nous sécuriser et nous sauver. Si nous n'allons pas au port, c'est terminé pour nous. Et c'est comme si Paul disait, nous avons accès par la foi à cette grâce. C'est comme s'il voulait dire, eh bien maintenant, quand nous croyons en Jésus comme notre sauveur, et en qui nous avons mis toute notre confiance par la foi, et non par les œuvres, en nous confiant dans son œuvre parfaite, à ce moment-là, on entre en peur, et la paix de Dieu vient dans notre cœur. Ah, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Donc, il y a l'image là d'un calme, d'une sécurité parfaite. Quand on croit au Seigneur, il nous met dans une sécurité parfaite, dans un calme total. Et nous sommes au port, protégés, bien gardés et près de son cœur, près de Dieu lui-même. Il n'y a plus de séparation.
Alléluia.
Il n'y a plus rien qui nous condamne. C'est un message révolutionnaire. Et encore maintenant, ce message-là est révolutionnaire. La preuve, c'est que des multitudes n'en veulent pas. C'est de la folie. Comment voulez-vous dire qu'un seul sacrifice comme cela peut régler ce problème? C'est impossible.
Une chose si simple.
Une folie.
Alors, voyez-vous, nous devons faire attention dans ces temps de la fin à cause de l'apostasie qui rend grandissant. Nous devons avoir une foi ferme. Si nous voulons une foi réelle et vivante, il faut que notre foi soit ferme dans l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Et nous en tenir là. Parce que c'est là seulement que nous avons une vraie communion avec Dieu, qu'il n'y a plus de séparation et que nous avons cette paix parfaite. Parfait. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Dieu ne nous reproche plus rien. Parce que tout ce qu'il nous reprochait, il l'a mis sur Jésus. Et comme lui a payé le prix, il ne demande pas deux fois le paiement d'une dette. Il a payé ta dette, Jésus. Il ne va pas dire, mais toi aussi, tu m'as encore payé ta dette. Ça ne marche pas. Mais, si nous n'acceptons pas qu'il a payé notre dette, toi, tu dois la payer la tienne. Et tu la payeras. Mais si nous croyons qu'il a payé notre dette, alors nous sommes libérés. C'est ça l'évangile. C'est le cœur même de l'évangile. Nous devons tenir ferme. Sinon, c'est de la religiosité. Sinon, il n'y a pas de salut. Et combien dans nos familles ont de telles pensées, n'est-ce pas? Le salut par les œuvres, la religion, et tout cela. Voyez-vous, comme on est loin, loin, il y a une religion, mais on les voit très bien, qu'il n'y a aucune communion réelle avec Dieu. Ce sont des rites.
Mais c'est ça.
C'est la pratique de rites.
Oh.
Tandis que maintenant, l'évangile, c'est une communion, comme il a été dit.
La vie.
Une communion intime avec le Seigneur. Et cela, il n'est possible que lorsque nous honorons le sang de Christ, qui seul nous purifie, nous justifie, nous sanctifie et nous délivre de la main de l'ennemi et de notre oppresseur. Amen.
Amen.
Alors, on va aller un peu plus loin. Un
deuxième fruit. Ben, j'en ai parlé un petit peu, mais on va revenir. C'est au verset 1. Une foi qui nous justifie, c'est une foi qui nous justifie et qui nous accorde la paix avec Dieu. C'est un peu ce que je vous ai dit. Une fois qu'on croit vraiment à l'œuvre, au sacrifice de Christ, à ce moment-là, la justice, notre péché, Jésus l'a porté, et sa justice, il nous la donne. C'est pourquoi il est parlé de vêtements blancs. C'est le vêtement de la justice divine de Jésus. Sa justice, il nous la communique, à condition que nous, nos injustices, notre péché, nous la remettons entre ses mains. Donc c'est une foi qui nous justifie maintenant et qui nous accorde la paix avec Dieu. Dieu est satisfait, il n'y a aucune raison que moi je ne sois pas satisfait. Puisque Dieu est satisfait du sacrifice de son Fils, vous et moi, nous devons être satisfaits.
Aussi.
Donc, aussi. C'est une foi qui nous justifie. Donc, Dieu nous voit comme si nous n'avions jamais péché. C'est ça la justification. Et nous pouvons nous présenter devant lui sans ce sentiment de culpabilité qui mine la vie des millions de personnes. Ce sentiment de culpabilité, la religion, les œuvres, les souffrances, les sacrifices, les larmes. Tout cela ne peut ôter le moindre péché et le sentiment de culpabilité dans la conscience des hommes. Rien n'ôte le péché que le sang de Jésus. Une foi qui nous justifie. Seigneur, désormais, tu me vois comme si je n'avais jamais péché. C'est ta justice que tu me donnes. Il y a une transaction là. Il prend mes péchés, mais il me donne sa justice. Et c'est recouvert par sa justice, mes amis, que nous entrerons dans le Saint-Lieu, n'est-ce pas vrai? Et on est en paix avec Dieu. C'est merveilleux. C'est une foi qui est là, qui nous justifie et qui nous apporte la paix avec Dieu. Troisième fruit, au verset, toujours c'est au verset 2-3, il est dit, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, ici il y a une pensée très importante. Notre foi, c'est une foi qui se réjouit de la gloire de Dieu.
Amen. Amen.
Une foi qui se justifie de la gloire de Dieu à venir. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Vous vous rendez compte? D'où l'importance d'avoir devant nos yeux cette gloire qui nous attend. Et de penser beaucoup au ciel, plus que jamais.
C'est
là qu'est notre espérance, c'est là qu'est notre consolation. Ici-bas, n'attendons aucune consolation. Aucune consolation. Il n'y aura que déception. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Donc une foi qui se réjouit de la gloire de Dieu à venir.
Alléluia.
Il est bon de penser à cela. Dans ce monde où tout est ténèbres, tout est honte, malheur, il nous faut penser à cela. Étienne, à la fin de sa vie, vous vous souvenez? J'ai noté la référence, Étienne, acte 5, 7, 35. On parle de la gloire de Dieu. Et regardez ce qu'il est écrit. 54. En entendant ces paroles, donc c'est Étienne qui parle. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'il dit au début, encore un peu au-dessus? Ils ont tué ce qui annonçait d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Tu vois? Vous voyez, il essaye de montrer la culpabilité. Et c'est important. C'est quand quelqu'un réalise qu'il est coupable qu'il peut accepter la grâce et accueillir la grâce dans sa vie. S'il n'est pas coupable, d'où l'importance, quand on prêche l'évangile, de montrer la loi d'abord, pour que les gens se sentent coupables, et ensuite prêcher la grâce. Puis dire, voilà, maintenant vous pouvez être pardonné. Mais on ne peut pas pardonner à quelqu'un qui ne se sent pas coupable, ni condamné. Ah. Et là, Étienne, rempli de l'esprit, il fait bien cela. Il leur dit, ils ont tué ce qui a annoncé d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant. Et oui, il est, hein, et dont vous avez été les meurtriers. Mmh. Vous rendez compte ces paroles? Tu entends des paroles comme ça aujourd'hui? On risque de
lapider,
comme avec Étienne.
Oh, ouais. Oh, pareil.
Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges, et qui ne l'avez point gardée. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur, et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit, qu'est-ce qu'il vit ?
La gloire de Dieu.
Oui, on a parlé de la gloire de Dieu. Il vit la gloire de Dieu. Et Jésus, debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Remarquez cette pensée ici. Le Fils de l'homme debout. Jésus n'est pas assis là, il est debout. Pour honorer son serviteur martyr, et qu'il va recevoir dans peu de temps. Jésus est debout quand on accepte de souffrir pour lui. Et il est là toujours pour nous intercéder pour nous et nous aider.
Oh, oui.
Il vit la gloire de Dieu, Étienne. Et nous aussi, nous n'aurons pas tous des visions comme Étienne, évidemment. Mais nous savons ce que représente cette gloire qui nous attend. Et nous devons nous attarder là-dessus et penser à cela. Et toute cette gloire qui nous attend, eh bien, nous guérira un peu de toutes ces déceptions, désappointements, tous ces malheurs, toutes ces tristesses, toutes ces peines que nous vivons sur la terre. Quand la Bible dit que là-haut, il n'y aura plus de larmes. Plus de dor, plus de tristesse, plus de mort. Vous pensez à cela davantage. Une foi qui se réjouit de la gloire à venir. Nous avons une espérance, Paul dit. Nous ne sommes pas comme ceux du monde qui n'ont point d'espérance. Nous avons une espérance. Donc nous avons quelque chose de glorieux qui nous attend. Et notre foi doit se réjouir de cela. Et notre foi, lorsque nous nous réjouissons de cette gloire, c'est comme un témoignage dans ce monde. Parce que la seule espérance de ce monde et de tout ce qui nous entend, c'est cette espérance de la gloire de Dieu et du ciel. Et si nous ne sommes pas saisis par cette gloire-là, alors nous n'arriverons pas à être d'authentiques témoins. Nous devons faire envie à ceux qui sont autour de nous de cette gloire qui nous attend. Et que si on ne va pas dans ce lieu glorieux, et que c'est un autre lieu terrible qui attend les hommes, un lieu où il y a des pleurs et des
grincements
de dents, comme nous le savons, l'enfer éternel. Une fois, comment, voilà ce que Paul voulait communiquer aux Romains. Il voulait leur dire maintenant, parce que être chrétien à Rome, c'était facile.
Oh oui.
Vous êtes d'accord avec moi, ce n'est pas facile. Ce n'était pas facile, être chrétien à Rome. Vous risquiez votre vie continuellement.
Ah oui.
Continuellement. Et Paul, comment, inspiré par le Saint-Esprit, comment pouvait-il consoler ces chrétiens? Alors disant, tournez les regards vers le ciel. Bientôt, vous serez auprès du trône, auprès de l'agneau, et vous serez consolés éternellement. Pensons à cela. Et Dieu, parfois, permet toutes ces difficultés dans notre vie pour détacher nos regards des lumières d'ici-bas, des lumières trompeuses d'ici-bas, pour les fixer sur la lumière éternelle d'en haut.
Oh, oui.
Et Dieu permet ces choses, toujours pour nous réorienter et nous disant, tu n'es pas fait pour vivre ici.
Éternellement ici.
Ta destinée est ailleurs. Vrai. Regarde ailleurs. Ta destinée est ailleurs.
Amen, amen.
Réjouis-toi dans l'espérance. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Mm-hmm. Est-ce que nous le faisons? Mm-hmm. Nous ne le faisons pas assez.
Pas assez. Jamais. Non, non. C'est sûr.
C'est pourquoi il est beau dans nos louanges de chanter beaucoup le ciel et
la gloire de Dieu.
Ceci est important. C'est là-bas que nous allons aller bientôt.
Oui.
Et c'est quand nous chantons ces chants, c'est comme un baume qui vient sur nous.
C'est vrai.
Un baume céleste. Sinon, nous souffrons sans qu'il y ait cette consolation divine. Mm-hmm. Et cette consolation vient lorsque nous regardons ce ciel de gloire. Amen.
Oui.
Donc voilà, ça c'est une foi réelle. Et vivante, une foi qui se réjouit de la gloire de Dieu à venir. Est-ce qu'on se réjouit? Réjouissons-nous toujours plus. Un quatrième fruit d'une foi réelle et vivante. Écoutez, là, c'est important maintenant. C'est une foi qui a saisi le sens et le but de nos afflictions et de nos tribulations. Je répète, c'est une foi qui a saisi le sens et le but de nos tribulations. Alors là, il faut relire le passage. Qu'est-ce qu'on a lu tout à l'heure? À la gloire. Ensuite, bien plus maintenant, voilà. Maintenant, bien plus. Vous vous rendez compte? Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Là, il y a quelque chose qui nous dépasse. Il y a quelque chose que l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit qu'on a vu, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut vous montrer cela. Et que derrière ces épreuves, ces tribulations, ces afflictions, il y a une pensée positive de Dieu. Il y a un projet divin extraordinaire. Et comment le voir? Eh bien, le mot latin pour tribulation, il y a un mot pour cela qui est tribulum. Dans du temps des Romains, il y avait une sorte de bâton qu'on appelait un tribulum. Et ce tribulum, vous savez à quoi il servait? Il servait à battre le grain, le blé, de telle sorte que, à force de frapper le grain de blé, jusqu'à ce que la balle se détache du grain de blé. Donc le but du tribulum, c'était de séparer cette balle du grain. Et spirituellement parlant, Dieu veut faire cela en nous. Il veut faire en sorte que tout ce qui est humain, tout ce qui est encore attache humaine, tout ce qui nous empêche encore de nous épanouir vraiment, eh bien Dieu, par ses tribulations, il l'utilise, ce tribulum, pour nous purifier, pour nous fortifier et pour nous rendre toujours plus semblables à Jésus. Alors, est-ce que nous avons compris cela? C'est cela qu'il faut bien comprendre. Seigneur, derrière ces tribulations, tu es à l'œuvre.
Amen.
Ce n'est pas un accident, Dieu utilise ces tribulations. Mm. Nous en avons besoin finalement.
Oui.
Mais nous devons réagir de la bonne façon. Voilà. Nous pouvons soit dire « Non, Seigneur,
c'est trop,
je n'en peux pas ou je n'en veux pas. Mm-hmm. » Ou à dire « Oui, Seigneur, agis avec ton tribulum, mm-hmm. sépare ce qui est de l'homme et de toi en moi. Ce qui encore ne te glorifie pas. Mm-hmm. Je veux, Seigneur, te glorifier dans ma vie. Mm-hmm. » Et si nous savons quel est le but de ces tribulations, finalement, on peut faire comme Paul. Bien plus, nous nous glorifions même dans ces tribulations. Et tant que nous gémissons dans nos tribulum et nos tribulations, c'est que nous n'avons pas saisi le but que Dieu veut. Il a un objectif. Ne regardons pas le bâton qui nous tombe dessus, mais regardons la main de celui qui nous frappe. Mm-hmm.
Amen.
Et regardons non seulement sa main, mais son cœur, son visage. Ce n'est jamais pour nous faire du mal, au contraire, c'est pour nous délivrer du mal. Ce n'est jamais pour nous détruire, au contraire, c'est pour nous relever. Ce n'est jamais pour nous rendre, pour que nous soyons vaincus, mais au contraire, c'est pour que nous soyons vainqueurs.
Amen.
Alors voyez-vous, bien plus nous nous glorifions dans nos afflictions et tribulations. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous éclairer là-dessus, n'est-ce pas? Sinon, on pense, nous, que toutes nos tribulations, on est là, on baisse la tête, on attend que ça passe. Et Dieu nous dit, non, c'est pas comme ça. Je suis là, moi. Tu es un berger.
Voilà.
Je m'occupe de toi. Je veille sur toi. Chaque larme que tu verses
est recueillie.
Chaque cheveu de ta tête est compté. Et nous pensons que Dieu nous a abandonnés. Quand on voit les coups de bâton, on dit, ça y est, Dieu m'a abandonné. C'est le contraire. C'est parce que moi je veux que tu me ressembles davantage. Cinquième fruit d'une foi réelle et vivante, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Donc, la vraie foi, c'est une foi dont l'épreuve produit la persévérance et la patience. C'est le but de la tribulation, c'est que nous soyons encore plus persévérants et patients. Et c'est un mot grec, hypoméné, là, ici. C'est l'esprit de quelqu'un qui n'est pas là pour simplement supporter la chose, supporter l'événement, l'épreuve, mais c'est quelqu'un qui triomphe, qui utilise cet événement-là pour être encore plus fort et plus vainqueur. Je lisais dans un commentaire, Beethoven, paraît-il, vers la fin de sa vie, il n'entendait plus rien.
Oui, il était sourd.
Sourd, vous vous rendez compte? Un musicien sourd.
Compositeur.
Et vous savez ce qu'il a dit? Quand il a eu cette infirmité, il a dit, moi je vais prendre mon destin à la gorge. À la gorge. Je ne vais pas me laisser arrêter par ça. Et il a continué quand même. Parce qu'il entendait la musique dans sa tête.
Dans sa tête. Il connaissait l'écriture de la musique, il pouvait continuer quand même.
Ah oui.
Mais difficile quand même. Hein.
Oui, mais enfin, il a pu faire.
Il a pu continuer.
Il ne s'est pas laissé arrêter. Non. Combien aurait fait? Bon, maintenant, c'est terminé. Mm-hmm. Bon, mais maintenant, on n'en parle plus. Hein. C'est terminé. Voilà. La musique, allez, tu fermes le piano, est terminé.
Ouais.
Voilà. Ça, c'est ce que beaucoup de gens font. Mais une pomenée, c'est ça. La persévérance. L'affliction produit la persévérance. Produit en nous. Devrait produire en nous une telle réaction que on dise, je ne me laisserai pas arrêter par ça. Le diable voulait m'arrêter, là. Et dire, maintenant, c'est terminé, tu arrêtes. Eh bien, on doit justement réagir différemment. Dire, non, eh bien, justement, je vais utiliser ce qui me fait le plus de mal pour me rapprocher le plus de Dieu. Ça, c'est une pomenée. Ça, c'est une patience victorieuse. Non pas seulement un support où on supporte comme ça le dos baissé. Mais au contraire, c'est se relever et dire, je ne me laissais pas arrêter par cela. Au contraire, j'irai encore plus loin. J'utiliserai cette tribulation pour aller plus loin avec mon Dieu. N'est-ce pas merveilleux? C'est ça, hypoménée. Et la vraie, la fiction aux yeux de Dieu veut produire cette persévérance, cette patience aussi. Il y a aussi le mot patient. Il y a persévérance, mais aussi une patience dans ce mot-là. Qui ne se laisse pas arrêter, mais ce n'est pas une patience silencieuse où l'amertume est dans le cœur, et puis non, c'est le contraire. C'est une réaction qui fait que, quoi qu'il m'arrive, ben, j'utiliserai ce qui me fait le plus de mal, eh bien, pour aller le plus près de Dieu, le plus loin avec le Seigneur, et que personne
ne m'arrête.
Et ne m'arrêtera. Sixièmement, une foi réelle et vivante, c'est quoi? C'est une foi qui sort purifiée des tribulations. J'en ai parlé un petit peu, mais maintenant il y a une pensée ici. Une foi qui sort purifiée et aussi fortifiée des tribulations. Vous voyez le but ? C'est pas de nous affaiblir, mais c'est de nous rendre plus forts. Alors moins de tribulations, moins de force. Aux yeux de Dieu, plus de tribulations, plus de force. Seigneur, c'est pas trop, pas trop. On sera des tout faibles, faiblichons. Mais plus on en a, et plus on réagit de la bonne façon, plus on sera fort. Et qu'est-ce qu'il est dit ? Sachant que l'affliction produit la perte, et la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Vous voyez, maintenant, c'est cette référence, c'est cette expression, on comprend, pour dire, une foi qui sort purifiée et fortifiée des tribulations. Et victoire dans l'épreuve, c'est un seul mot, c'est dokimé, dokimé en grec, qui veut dire, il y a l'image de façonner le caractère de quelqu'un. Donc la persévérance, la patience, tout ça, c'est nécessaire pour forger en toi un caractère d'acier. Et ici, l'idée, derrière le mot dokimé, c'est l'idée d'un métal qui passe par le feu afin d'être purifié des scories et des impuretés. Voilà ce qu'il y a derrière. Derrière cette pensée la persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Donc c'est comme si Dieu nous mettait dans le feu pour purifier, nous purifier de toute impureté et de toute scorie. Alors, cette attitude fait que la personne sort de la tribulation plus forte, plus pure, meilleure et plus près de Dieu. Vous vous rendez compte ? C'est pour ça que Paul dit, mais bien plus nous nous glorifions, parce que regardez les résultats. Résultat, plus fort, plus pur, meilleur et plus près de Dieu. Et tout cela, c'est dans Dokimé. Donc c'est ce métal qu'on met et qui ressort dans le feu et qui ressort purifié. Et puis même, il y a une autre image avec ça. Dans l'ancien temps, quand les orfèvres, justement, mettaient un métal précieux dans le feu, quand est-ce qu'ils retiraient le métal du feu ? Vous le savez ?
Quand il voyait l'orfèvre
voyait son visage. Quand il voyait son visage dans le métal précieux, il se disait, ça y est.
Comme un miroir.
C'est comme un miroir. Ça y est, c'est terminé. Le travail est fait. Je peux retirer là. Les impuretés sont parties. Les scories sont loin. C'est terminé. Et le but du Seigneur, c'est justement de nous transformer à son image.
Par les épreuves.
De nous transformer à son image. Et que on doit veiller à ça. On doit aussi grandir à l'image du Seigneur. Oui, prendre du temps pour ça.
Oui.
Pas rester toujours les mêmes. Avoir toujours les mêmes réactions, les mêmes travers, les mêmes mauvaises habitudes.
Le même langage.
Le même langage. Oui, aussi langage. Les mêmes mauvaises habitudes. Il faut que ça change. La sanctification, c'est ça. C'est ce changement progressif à l'image du Seigneur. Et là, le Seigneur utilise ce feu-là pour nous transformer à son image. Que les gens puissent dire de nous, « Ah, mais t'es plus le même, t'es plus la même. » Mais ça, c'est merveilleux. Mais quand on nous voit au bout de quelques années, et qu'on nous dit « T'es toujours le même. » Il y aura de quoi s'inquiéter. Il faut que les gens voient qu'on est changé. Surtout ceux qui nous connaissent, bien sûr. Les autres, ils ne nous connaissent pas. Surtout ceux qui nous connaissent. Parce qu'ils connaissent nos points faibles. Ils connaissent aussi nos points. Hein? Et il faut qu'on, dans tous ces domaines où il y a une retouche du Seigneur, où il y a des scories qui empêchent le métal de briller, le Seigneur veut enlever ces scories de notre vie, de ma vie. Laissons-le faire.
Amen.
Ne passons pas par-dessus, parce qu'après nous serons un beau témoignage aussi, n'est-ce pas vrai? Quel aussi témoignage. Allons un peu plus loin, verset 5. Et tout cela va produire quoi? La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. On va y revenir à l'espérance pour une dernière qualification. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. d'un seul coup, il y a l'amour de Dieu qui vient là. Pourquoi? Eh bien, c'est cette... une foi réelle et vivante, c'est une foi qui refuse de douter de l'amour de Dieu.
Amen.
Dans les tribulations, dans les oppositions, dans tout cela, c'est de refuser de croire que Dieu ne m'aime pas. Et le Saint-Esprit veut nous dire, au travers de tout cela, réalise, c'est parce que Dieu t'aime que tu passes par là. Et nous, notre... C'est quoi? C'est exactement le contraire. Et le diable en met un bon coup là aussi. Et tu vois bien, c'est parce que Dieu ne t'aime pas. Dieu t'a abandonné. Et nous, avec notre nature charnelle, on est là. Ça mord bien, ça. Ah oui, oui, c'est vrai, pas possible. Et le Saint-Esprit nous dit, attention. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Si tu passes par là, c'est pas parce que Dieu t'aime. Au contraire, c'est parce que Dieu t'aime. Il est question de l'amour de Dieu ici, pas de notre amour pour lui. Vous remarquez? C'est de l'amour de Dieu pour nous. Or, l'espérance ne se trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, c'est son amour pour nous. Il fait tout cela parce qu'il nous aime. Oui, là aussi, ça nous dépasse. Humainement, on pense exactement le contraire. Et si on n'est pas rempli du Saint-Esprit, et voilà ce qu'on
pense. On réagit comme ça.
On réagit comme ça si on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Ouais. Dieu m'a abandonné, il n'a plus rien, tout ça. Ouais. Ça prouve qu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit. C'est tout simplement ça. Ça prouve qu'on n'en est pas. Mais quand on l'est, je sais que Dieu m'aime.
Oui.
Quelles que soient ses épreuves,
oui.
Moi je sais que Dieu m'aime. Parce qu'on est rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit sait. Il est à l'origine de toutes ces choses-là. Mm-hmm. Et il est là pour justement t'aider. Et toi, tu crois qu'il est contre toi alors qu'il est là. Il fait tout pour t'aider. Et voilà pourquoi on peut attrister le Saint-Esprit.
Oui.
Et un chrétien qui croit cela est un chrétien triste. Et pourquoi il est triste? Parce qu'il a attristé le Saint-Esprit. N'oublions pas, on peut attrister le Saint-Esprit.
Oui, c'est ça.
Quand on ne fait pas confiance
voilà.
à ce que Dieu fait dans notre vie, et surtout à son amour.
Oui.
Douter de son amour, c'est perdre toute vie victorieuse.
Et ça nous empêche de recevoir la consolation de Dieu.
Aussi. Et vous savez, Romains 8, 37, vous le savez.
Seigneur veut toujours nous consoler, mais nous...
Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8. Par celui qui nous a aimés. Et quand vous lisez le contexte, vous avez vu le contexte de Romains 8, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Et puis il y a toutes les... toutes les tribulations... Ni les anges, ni les dominations, ni les choses terrestres à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Donc voyez-vous ce que le Saint-Esprit veut imprimer en nous, comme dans un métal, comme on imprime, on grave dans le métal quelque chose d'indélébile. Dieu t'aime, Dieu est amour. Ne doute jamais. C'est pas parce que le soleil, tu vois pas le soleil, et que tu vois que des nuages, tu dis le soleil n'existe pas. Le soleil est derrière les nuages. Le soleil de son amour brille toujours. C'est pas parce qu'il y a des nuages que le soleil de son amour a disparu, c'est toujours là. Voyez-vous, une foi qui refuse de douter de l'amour. Tous, d'une manière ou d'une autre. À un moment ou à un autre, on a tous eu ces tentations-là, n'est-ce pas? Tout ce qui peut dire qu'il n'a pas, c'est impossible. On est là, c'est un combat, c'est vrai. Mais le Saint-Esprit veut nous aider. Il ne faut surtout jamais succomber et dire « Oui, c'est vrai » et tout. Et laisser ces choses se pénétrer au fond de nous-mêmes. Car la tristesse peut envahir notre cœur parce que nous attristons le Saint-Esprit. Et toute vie... chrétienne victorieuse devient impossible. Et huitièmement, une foi réelle et vivante, c'est quoi? Une foi réelle et vivante, c'est une foi qui vit dans l'espérance. Vous voyez, je reviens au mot, avec le mot espérance qui est là. Dans l'espérance que Dieu fait concourir toutes choses pour notre bien. Verset 5, vous voyez. Or, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point. Il y a une assurance. C'est pas une assurance, un espoir comme ça, à l'aveuglette. C'est une espérance, pleine d'espérance, j'allais dire. Une espérance réelle. Pourquoi? Parce qu'on sait que Dieu fait concourir toutes choses pour notre bien. Alors là, on peut espérer contre toute espérance. Parce que Dieu est là. Il fera concourir toutes choses pour notre bien. Voilà. Notre foi doit grandir. Notre foi doit mûrir. Notre foi doit devenir adulte. Elle ne doit pas toujours rester une foi enfantine, une foi égoïste, mais une foi réelle. Une foi qui grandit, qui mûrit et qui glorifie le Seigneur. Que son nom soit béni. Amen.
Amen, Seigneur.
Seigneur, merci. Wow. Ta parole est la vérité.
Oh oui, c'est vrai.
Sanctifie-nous par la vérité. Tu nous appelles à être fort dans notre foi. Comme Paul l'a dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Si notre foi est faible, Seigneur, nous serons faibles.
C'est vrai.
Et si notre foi est forte, si elle se fortifie de jour en jour, nous serons des chrétiens forts et vainqueurs.
Amen.
Aide-nous, Seigneur. Nous mettons notre main faible.
Dans ta force.
Dans ta main forte et sûre.
C'est vrai.
Nul ne nous ravira de ta main. Béni sois-tu,
Seigneur. Alléluia, Seigneur.
Éternellement. Espérant contre toute espérance, amen. Comme Abraham.
Amen.
Il a vu l'exaucement. Il a glorifié Dieu. Et nous aussi, nous glorifierons Dieu. Et Dieu pourra faire son œuvre comme il le veut, comme il le désire. Et tout sera parfait. Parce que c'est sa volonté qui compte. Par-dessus tout et avant tout dans notre vie. Jésus, à toi seul, sois toute la gloire, dès maintenant et à jamais.
Et si nous devons regarder vers l'avant pour vivre de notre espérance glorieuse, c'est vrai, nous devons lever les yeux vers lui et nous nourrir de cette espérance-là.
Amen.
Tout en regardant également en arrière, et en voyant la fidélité de Dieu jusqu'ici, tout ce que Dieu a déjà fait pour nous. Nous ne devons pas négliger non plus cela. Tout ce que Dieu a fait pour nous, sinon nous serions des ingrats. Et nous ne pourrions pas non plus nous réjouir du ciel, si nous sommes déjà ingrats pour ce qu'il a déjà fait. Nous ne pourrons pas apprécier le ciel dans sa vraie valeur, si nous négligeons ce que Dieu a fait jusqu'ici. L'Éternel nous a secourus, on peut dire aussi.
Amen.
C'est important.
Amen.
Et cette parole du Seigneur pour nous, en cette nouvelle étape de votre vie, dit le Seigneur, que chacun de vous prenne bien garde à lui et veille attentivement sur son âme chaque jour de sa vie. Gardez-vous d'oublier ce que vos yeux ont vu. Ne permettez pas à votre cœur d'oublier tout ce que j'ai fait pour vous.
Amen.
Et enseignez ces choses à vos enfants ou petits-enfants et à tous ceux que je placerai sur votre chemin.
Amen.
Prenez particulièrement garde, c'est quelques paroles d'exhortation du Seigneur pour nous, chacun de nous. Prenez particulièrement garde aux décisions que vous allez prendre cette année. Ça m'a frappé, ça. Ouf. Donc, le Seigneur veut nous rendre attentifs. Attention aux décisions que vous allez prendre cette année. Elles seront importantes. Je vous appelle à grandir dans ma connaissance et dans le discernement que je veux vous donner des choses qui sont les meilleures à mes yeux. Plongez-vous dans ma parole qui vous conduira sûrement sur le chemin de ma volonté pour vous et vous obtiendrez ainsi un jugement exercé pour savoir discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Et c'est de plus en plus important de savoir discerner ce qui est bien, plus que jamais, dans ce monde pourri, plus que jamais. Si on a besoin de savoir ce qui est bien et ce qui est mal, parce que les gens n'ont plus cette notion-là, ils ont perdu cette notion, ils n'ont plus de repères. Et puis, aussi, ça m'a frappé aussi, mes enfants, souvenez-vous que chacune de vos décisions, puisque le Seigneur a dit attention aux décisions que vous allez prendre, souvenez-vous que chacune de vos décisions que vous allez prendre, produira une série de petites vagues autour d'elle, un peu comme une pierre qu'on jette dans l'eau, et qui produit des ondulations. Les décisions, c'est comme ça, nos décisions aussi, quand on les prend avec le Seigneur. Les choix que vous faites déterminent ce que vous êtes et ce que vous deviendrez. Que chacun de vous, de vos choix, que chacun de vos choix découle d'un cœur totalement soumis à ma volonté. Et de tels choix produiront inévitablement des ondulations sur d'autres autour de vous. N'en soyez pas étonnés. Ils permettront à vos vies de produire ces fruits de justice à la gloire de mon nom. J'attends de chacun de vous tout votre amour et toute votre consécration. Préparez-vous pour le jour de mon retour, afin que vous soyez trouvés purs et irréprochables devant ma face, après m'avoir servi à la louange de ma gloire, dit le Seigneur. Et pour quelqu'un, en particulier au milieu de nous, une personne plus personnelle, une parole plus personnelle, une personne qui appréhende l'avenir quelque part, dans le fond de son cœur, tu appréhendes ton avenir. Le Seigneur te dit, je voudrais que ta foi soit fondée sur une inébranlable confiance en moi, te dit le Seigneur. Toutes tes craintes ne sont finalement que le fruit de ton incrédulité. Celui qui est vraiment uni à moi, pourrait-il avoir peur de son avenir? Que ta foi et ta confiance en moi te fassent sans cesse chanter des chants de victoire. Même au creux de tes vallées, souviens-toi que je suis et que je reste ce Dieu de toutes les victoires, et que c'est encore moi qui aurai le dernier mot dans tes circonstances si tu m'accordes ta confiance absolue. Voilà, c'était ce que le Seigneur m'avait donné encore.
Merci Seigneur.
Nous voulons te remercier Seigneur.
Oui, merci.
Trouve-nous veillants sur nos décisions, veillants sur nos vies, plongés dans ta parole, recevant de toi les instructions nécessaires, obéissant à ta voix, Seigneur, et regardant, levant toujours et constamment les yeux vers toi, le chef et le consommateur de notre foi. Et nous ne serons pas ébranlés, nous ne faillirons pas, nous ne coulerons pas, parce que Jésus est dans notre barque.
Amen.
Et qu'il a décidé d'y rester. C'est nous qui pouvons quitter la barque. Lui ne la quittera pas. Alors Seigneur, les yeux fixés vers toi, sur toi, nous voulons aller de l'avant, avec confiance dans cette année, et nous attendre à toi et de te demander ton conseil pour chacune de nos décisions. Et ne pas être étonné si cela produit des vagues autour de nous. Et remettre ces vagues entre tes mains.
Amen.
Seigneur, merci. Tu nous donneras la patience de traverser les tribulations et les difficultés avec toi. En te faisant confiance et en continuant de te faire confiance. Et en sachant que tu n'as pas dit le dernier mot. Le dernier mot, c'est toi qui le dis.
Oui.
Oh, nous t'aimons, Seigneur.
Oui.
Nous te remercions d'avoir pu passer ces quelques instants en ta présence.
Amen.
De t'avoir entendu nous exhorter de mille manières. Combien tu es riche, profond, puissant dans tes exhortations. Seigneur, merci pour ce message aussi, pour tout ce que tu nous as dit au travers de lui. Merci de ce que tu cherches à fortifier notre foi, afin que notre foi ne soit pas ébranlée par aucune circonstance adverse.
Amen.
Merci Seigneur pour ta présence.
Merci.
Qui nous est infiniment précieuse. Sois adoré, béni, loué pour l'éternité. Amen.
Amen.
Vers Jésus.
Contemple son visage merveilleux et les choses de la terre pâliront
me vient quand l'ennemi viendra contre vous comme un fleuve. L'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Que c'est vrai pour nous, Seigneur. Quand l'ennemi, les tribulations, les choses terribles viennent contre nous comme un fleuve parfois, ton Esprit est là pour contrôler les choses. Seigneur, sois béni, sois adoré, sois loué, Seigneur. Nous pouvons continuer de te faire confiance et nous allons de te faire confiance. Amen.
J'ai juste une pensée au-dessus de mon petit message. Le chrétien est renouvelé lorsqu'il a les yeux fixés sur la puissance de Dieu et non sur ses problèmes.
Ah oui, tout à fait.
Le chrétien est renouvelé lorsqu'il a les yeux fixés sur la puissance
c'est
de Dieu
tellement vrai.
Et non sur ses problèmes.
Amen.
La blessure.
Amen. Gloire à Dieu.
Le Seigneur m'a donné les paroles que je vais donner maintenant parce que c'est maintenant qu'il faut les lire. C'est tellement beau ce qu'il
m'a donné ces dernières semaines difficiles pour nous. Et ça m'a tellement aidé. Ça m'a tellement aidé que ça vous aidera aussi. Quand nous sommes dans des combats plus ou moins grands, chacun a les siens, le Seigneur m'a souligné particulièrement ce verset et l'a comme développé pour moi et pour nous tous. C'est un verset que tout le monde connaît bien, dans le psaume 23. Premier verset. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Alors voilà, ce qui m'a développé, c'est ceci, avec des versets que vous pourrez vous-même. Je vous conseille de le prendre, ça, et d'aller encore méditer là-dessus, parce que c'est tellement riche que je ne peux pas tout vous dire en quelques mots. Mais je suis ton berger, tu ne manqueras de rien. Je suis celui, et vous allez voir toute la liste de choses que le Seigneur fait pour nous en tant que berger. Je suis celui qui te soutient. Psaume 28, 9. Je suis celui qui te conduit. Psaume 82. Je suis celui qu'il te faut écouter. Psaume 95, 7. Je suis celui qui te prend dans ses bras et te porte dans son sein. Ésaïe 40, 11. Je suis celui qui te protège de la main d'un plus fort que toi. Jérémie 31, 11. Je suis celui qui te nourrit. Tout ça, il fait le Seigneur pour nous. Te conduit dans de verts pâturages. Psaume 23, 2. Je suis celui qui veille sur ton repos. Ézéchiel 34, 15. Je suis celui qui te pense lorsque tu es blessé. Ézéchiel 34, 16. Je suis celui qui te fortifie lorsque tu es malade. Ézéchiel 34, 16 aussi. Je suis celui qui vient à ton secours lorsque tu es faible. Je suis celui qui t'encourage lorsque les vents sont forts et te font perdre courage. Je suis celui qui t'assure de sa présence et veut que tu en prennes conscience. Je suis celui qui veut te faire réaliser le prix que tu as à ses yeux. Je suis celui qui veut te faire prendre conscience de mon amour infini pour toi. Je suis celui qui veut te faire découvrir ma fidélité, sans limite à ton égard. Je suis celui qui te rappelle que ton nom est gravé dans les paumes de ses mains. Je suis celui, on peut trouver des versets pour tout ça aussi. Je suis celui qui t'assure que ses yeux veillent constamment sur toi pour t'assurer que toutes choses concourent ensemble pour ton bien. Amen. Amen. Et Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Quelles que soient nos épreuves, nos difficultés, Amen, Seigneur. Tu es notre bon berger. Et nous ne manquerons jamais de rien, Seigneur. Jamais. Si tout le monde se dressait contre nous, tu serais encore et toujours notre berger, Seigneur. Toujours.
Toujours, Seigneur.
Et puis, il m'a aussi souligné son désir. Ça, c'est tout ce que je fais pour toi. Et bien sûr, le sacrifice, ça, c'est la plus grande chose qu'il a faite pour nous. Mais toutes ces choses-là, il les fait quotidiennement pour nous. Et toute notre vie. C'est grand aussi. Ça fait partie de son plan de salut pour nous tous. Et celui qui fait toutes ces choses pour nous, il attend aussi quelque chose de nous. Et c'était la suite de ce qu'il m'a donné. Celui qui fait toutes ces choses pour toi désire que, premièrement, que tu recherches une communion constante avec lui. Deuxièmement, que tu suives ses instructions. Troisièmement, que tu crois en ta sécurité parfaite en lui. Quatrièmement, que tu lui accordes une confiance absolue. Cinquièmement, que tu obéisses à sa voix lorsqu'il te parle. Sixièmement, que tu apprennes à distinguer sa voix des voix étrangères. Et septièmement, que rien ne t'arrête jamais dans ton cheminement avec lui. Voilà, sept points, sept désirs profonds que le Seigneur a et qu'il attend de chacun de nous. Que nous répondions oui, Seigneur, à chaque point précisément, oui, Seigneur, je suis d'accord. Face à tout ce qu'il fait pour nous, qu'est-ce que c'est que ça? C'est bien peu de choses. Bien peu de choses. Et ça m'a beaucoup aidé dans les combats très difficiles que vous pouvez avoir. Ça vous aidera à relire ces choses, à méditer sur ces choses.
Pour les graphes quelque part.
Oh oui, vous pourrez les photocopier.
Et puis, le dernier point.
Le dernier point, que rien ne t'arrête jamais dans ton cheminement avec lui. Rien. Quelles que soient les oppositions, les choses contraires qui puissent nous arriver. Et puis, aussi une autre chose, on a écouté un message qui nous a aussi fait du bien avec Samuel à la télévision. C'était vraiment un message profond, encore aussi à méditer. Il parlait de Joseph. Et un peu dans ce même état d'esprit. Sur les chaînes américaines que nous avons chrétiennes. Et c'était un fabuleux message qui convenait aussi à notre situation, qui nous a aussi beaucoup aidés, Samuel et moi. Et le titre de son message était celui-ci. J'ai juste pris les points avec les versets qui correspondent, et après chacun peut méditer aussi là-dessus. Et je trouve c'est formidable. Ils disent, le titre de son message, c'est « Quand nous sommes dans une situation qui n'a pas de sens, comment réagir ?» C'était fort, parce que la vie de Joseph relève des points importants, et il y avait cinq points, et ces cinq points aussi vous aideront quand la vie n'a pas de sens, quand les choses qui se passent dans votre vie
qui vous semblent
ne pas avoir de sens. Oui, voilà. Vous ne comprenez pas.
On est en pleine dent.
À plusieurs d'entre nous, oui, c'est sûr. Et puis, à différentes étapes de notre vie, on y sera encore. Mm-hmm. On aura encore des choses qu'on ne comprendra pas. Alors, le premier point qu'il a développé, c'était ne cherchez pas à comprendre. Et il y a Proverbes 3, 5 à 6, Ésaïe 55, 8 à 9. Alors, vous pourrez prendre ça aussi. Deuxième point, je vais un peu vite. Deuxième point, quand nous sommes dans une situation qui n'a pas de sens, restez fidèle à tout prix et ne pas se rebeller. Comme Joseph. Plusieurs fois, il a été dans des situations qui n'avaient pas de sens. Quand on l'a mis dans un trou, quand on l'a mis en prison injustement, etc. Restez fidèle à tout prix et ne pas se rebeller. Dieu a honoré Joseph à cause de ça. Continuez de prier, continuez de rendre témoignage, continuez de servir Dieu. Quand rien n'a de sens dans ce qui se passe. Troisièmement, refusez toute amertume. Genèse 40. Quatrièmement, ne devenez pas impatient. Joseph, il avait une patience à toute épreuve. À toute épreuve. Ne devenez jamais impatient. Alors, Genèse 40, 41, psaume 37. Attendez patiemment l'intervention du Seigneur. Et combien, en notre temps moderne, on est impatient. Cinquièmement, espérez contre toute espérance. C'était l'attitude de Joseph, Genèse 41, 37. Dans les ténèbres, cette pensée-là aussi, que j'ai relevée, dans les ténèbres, ne doutez pas de ce que Dieu vous a dit dans la lumière. Quand vous êtes dans les ténèbres, ne doutez pas de ce que Dieu vous a dit dans la lumière. C'est ce que Dieu dit dans la lumière qui compte. Ce n'est pas les ténèbres qui nous aveuglent et qui nous font croire que tout est perdu, que toute espérance est perdue. Ce que Dieu nous a promis, il le tient. Et il le tiendra. Et nous en avons besoin. Et nous voulons dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur pour sa fidélité. Merci au Seigneur pour sa patience. Merci au Seigneur pour sa bonté infinie. Seigneur, nous voulons te dire merci, bien sûr, pour le sacrifice le plus sanglant qui ait jamais eu lieu dans le cours de l'histoire. Nous voulons te dire merci pour ta vie livrée, pour ta vie, tout ton sang qui a coulé, tout cela. Mais aussi pour tout ce que tu fais si quotidiennement à nos côtés, si fidèlement chaque jour. Seigneur, et j'avais à cœur qu'avant que nous prenions la Sainte Cène dans un esprit de reconnaissance, nous fassions tous ensemble cette prière que le Seigneur aussi m'a donnée et que nous pouvons ensemble faire en ce début d'année qui commence. Et nous ne savons pas où cela nous conduira. Personne de nous, d'entre nous ne sait ce qui va arriver à chacun d'entre nous. Mais nous savons, nous voulons être reconnaissants pour l'année 2007 et le remercier pour ce qu'il a été pour nous en 2007. Et nous aurons la force d'affronter 2008. Fort de la fidélité de Dieu à travers l'année 2007. Et ce verset de Jérémie, « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » Notre espérance est en lui. N'oublions pas, notre seule espérance est en lui. Jérémie 17:7. Alors, cette prière, point par point, nous pouvons la faire, vous pouvez la faire avec moi. Je la relis et ça me fait encore du bien. Seigneur, et je le fais de tout mon cœur, et nous pouvons le faire aussi chacun de nous.
Oui.
Seigneur, merci pour ta haute protection. Merci pour ta haute protection en l'année 2007.
Oui.
Nous pourrions ne plus être là. Samuel et moi avons failli perdre la vie à deux reprises. Deuxièmement, merci Seigneur de ce que chaque matin tu as mis ta force victorieuse à notre disposition. Merci Seigneur, chaque matin, tu as mis ta force victorieuse à notre disposition. Nous écoute le Seigneur. Troisièmement, Seigneur, tu n'as pas cessé de nous parler. De nous inviter à te confier nos secrets, nos joies et nos peines. Tu n'as jamais cessé de nous inviter. Viens, mon enfant, viens, confie-moi tes secrets. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu ne te lasses pas de nous. Jamais. Seigneur, tu ne t'es jamais dérobé lorsque nous t'avons cherché. Seigneur, tu ne nous as jamais refusé ton pardon. Lorsque nous te l'avons demandé avec sincérité. Seigneur, tu as toujours été là pour nous porter au-delà de nos obstacles. Oh oui.
Merci Seigneur.
Seigneur, tu t'es tenu à nos côtés en dépit des épreuves et tu as donné un sens à chacune d'entre elles, même si nous ne comprenons pas. Seigneur, tu as fait pour nous de grandes choses. Nous avons vu ta main agir. Nous avons entendu ta voix. Et nous avons pu accueillir ton secours. Merci Seigneur pour cette nouvelle étape. Que nous allons effectuer avec toi et de ce que nous pourrons encore et toujours compter sur toi. Sur cette même sollicitude et cette même grâce qui est la tienne. Merci Seigneur pour ta très grande fidélité à l'égard de chacun de nous. Oh, merci Seigneur. Oh, Seigneur, merci pour toutes ces choses. Nous sommes si petits et toi, tu es si grand. Ta grandeur est infinie. En toutes choses, elle nous dépasse. Et nous voulons une fois de plus nous recueillir au pied de ta croix sanglante qui est le sacrifice suprême, ultime, définitif, éternel, et qui nous permettra d'entrer un jour dans ta gloire, lavé de tout péché, de toute souillure. C'est le plus grand des miracles, et vivre avec toi pour l'éternité. Pour l'éternité, nous serons avec toi, lavé de toute souillure. Voici, il n'y a plus sur nous aucune condamnation, nous qui avons été lavés par le sang de Jésus. Réalisons que pour celui qui est en Christ, il n'y a plus aucune condamnation. Si les gens nous accusent, lui fera justice, lui nous a lavés, et il n'y a effectivement plus de condamnation sur aucun d'entre nous qui avons mis notre confiance dans le sang précieux qui a été versé à la croix de Golgotha. Sois loué, béni, Seigneur, pour cette croix immense qui n'a pas de fin et pas de limite, pour sauver chaque homme et chaque femme qui se confie en toi et qui reconnaît sa faiblesse et sa misère et son péché et qui revient à toi. Oh Seigneur, merci de nous avoir fait la grâce un jour de venir à tes pieds, de déposer le fardeau de nos péchés aux pieds de ta croix. Et d'avoir été libéré par le sang, par ton sang versé, et par ton corps meurtri, et par ta mort expiatoire. Sois béni, loué, adoré, Seigneur de gloire. Nous nous courbons devant toi et nous t'adorons de tout notre cœur. Trouve en nous la reconnaissance, faible bien sûr, mais tu aimes entendre tes enfants t'exprimer leur reconnaissance envers toi. C'est ce que nous faisons aujourd'hui, au pied de ta croix sanglante, où tu mourus pour moi et pour nous. Sois béni, Seigneur, adoré du fond de mon cœur. Amen et amen.